Bonjour tout le monde, ça va bien? Est-ce que vous êtes dégelé un peu? Les voitures n'ont pas démarré ce matin, hein? Eh, c'est compliqué ce matin. On termine l'évangile de Luc. Je suis content qu'on soit nombreux malgré le froid. C'est vraiment un passage extraordinaire. Je ne sais pas si vous recevez le courriel de l'Église. Tout ça, je mentionnais cette semaine pendant que je me préparais pour ce message-là, pendant que j'étudiais mon passage à plusieurs reprises. Pour être très franc avec vous, c'est rare que ça m'arrive. En général, quand je suis en train d'étudier, je suis très introspectif, mais là, à plusieurs reprises, je terminais mon temps d'étude, puis j'avais juste le goût d'adorer. J'avais juste le goût d'exalter la personne de Jésus-Christ, de l'élever, de reconnaître ce qu'il a fait. Et vraiment, j'ai été profondément édifié par ce passage-là. Je vais le dire comme ça, d'accord? Dans le dernier chapitre de l'Évangile de Luc, le christianisme prend naissance. C'est au dernier chapitre de l'Évangile de Luc que le christianisme naît. Puis pourtant, lorsque le chapitre commence, on a l'impression que ce qui aurait pu être quelque chose de grand, de merveilleux, d'extraordinaire, est mort. Soyez attentifs ce matin à la lecture que Jérémie va nous faire. Et peut-être que si ce n'est pas dans vos habitudes, peut-être c'est un bon matin pour juste fermer les yeux et écouter la lecture. Si vous avez besoin de suivre, évidemment, suivez le passage, il va être affiché tout ça. Mais il y a quelque chose qu'il faut saisir dans le mouvement qui se passe là. Puis dans ce mouvement-là, il y a un peu l'histoire de chaque individu qui, depuis des siècles, va placer sa foi en Jésus. Il y a ce mouvement, chacun d'entre vous, que vous avez probablement vécu si vous êtes chrétien. Et soyez attentifs au mouvement à travers le texte, parce que lorsque le chapitre commence, tu as l'impression que ce qui aurait pu être une belle histoire, une belle aventure, vient de se terminer. En fait, lorsque le chapitre commence, je crois que les ennemis de Jésus, qui étaient nombreux, les chefs religieux, tout ça, ont l'impression qu'ils ont réussi à étouffer ça, à crever ça dans l'œuf. Les disciples ont mis dans le tombeau le maître, celui qui les enseignait pendant 3 ans, celui qui est un modèle pour eux, et ils sont dans la confusion la plus totale. Puis avec une pointe d'ironie, ce sont des femmes. Rien contre les femmes, hein? Mais au contraire, à travers tout l'évangile de Luc, Dieu prend le temps de souligner le ministère de ces femmes-là, qui à l'époque avaient tendance à être mises de côté. Mais non, ce sont des femmes qui vont y aller, qui vont découvrir les premières. Le tombeau vide. Et on voit la culture qui transparaît parce que les disciples ne prendront pas ça au sérieux. Ils vont mépriser ce récit-là puisque ce sont des femmes qui rapportent ça. Il y a de ça dans le passage. Et ce qui semble être le dernier chapitre d'une belle histoire est en fait juste la fin du tome 1. Parce que la suite de l'Évangile de Luc, c'est le livre des Actes. Et à la fin du livre de l'Évangile de Luc, s'ouvre la première page, vraiment, du christianisme qui a bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Alors, je vous invite encore une fois, peut-être que ce matin, c'est un matin où vous voulez fermer les yeux et écouter la lecture. Si vraiment vous êtes visuel, allez-y, suivez dans vos Bibles avec nous ou suivez à l'écran. Et regardez bien qu'est-ce qui se passe dans le cœur des disciples. C'est extraordinaire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, on veut t'adorer et on veut commencer ce temps d'adoration en se transportant, Seigneur, au lendemain de ta crucifixion, de ta mort sur la croix, alors que les disciples t'ont conduit au tombeau, t'ont mis en terre, peut-on dire, Seigneur, et que tous leurs rêves sont brisés. Ils sont dans la plus grande confusion, Seigneur. Et on veut découvrir, Seigneur, le miracle qui a fait naître le christianisme. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Luc, au chapitre 24, versets 1 à 53, dans la nouvelle édition de Genève. Luc, au chapitre 24, versets 1 à 53. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent leur visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et tous les autres. Ceux qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que des femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, et on en sait qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à la table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit en mangeant devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.
Merci, Jérémie. On va commencer avec une illustration ce matin, d'accord? Il y a toutes sortes de philosophies sur la terre. Okay? Il y a toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de croyances. Puis en même temps, on a des choses, on a des points en commun, tous les êtres humains de toutes les époques. On vient au monde, on naît, puis à un certain moment donné, on cherche à, excusez l'anglicisme, mais à faire du sens, à trouver le sens à cette existence. Puis à un moment aussi dans ce cheminement-là, on prend la mesure de la brièveté de notre vie. Puis plus ça avance, plus ça va vite. Je parlais à une dame cette semaine à la banque alimentaire, puis elle me disait, on dirait que chaque année accélère. Elle a passé le cap de la soixantaine, puis elle dit, ouf, ça va vite, 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 vite. Donc tous les êtres humains, on a ça en commun. On vient au monde, à un certain moment donné, on se pose la question, pourquoi je suis là? Pourquoi je mérite d'être là? Le monde est à quelque part merveilleux, à moins que vous ayez une vie tout simplement misérable. Certains d'entre nous ont des vies qui comportent beaucoup plus de souffrance que de joie, mais la majorité des gens peuvent apprécier ce monde extraordinaire, cette opportunité-là de vivre, puis d'avoir des relations, d'avoir des rêves, de faire des choses. Puis on se pose des questions, pourquoi je suis là? C'est quoi le sens de ça? Puis on prend la mesure de notre vie. On mesure combien la vie est courte. On réalise que très, très rapidement, on va tous se retrouver. L'image qui me venait à l'esprit, c'est une frontière. Prenez ce qui va le plus évoquer un mur pour vous. Imaginez que vous cherchez un emploi, puis tout le monde est là devant. Au début, je pensais à un immense édifice où les portes seraient barrées, puis ce serait impossible d'y aller, puis tu ne sais pas comment accéder de l'autre côté. Ensuite de ça, je pensais à quelqu'un qui veut rentrer dans un programme particulier d'études, mais je pense que l'image la plus forte pour moi, c'est une frontière, un mur énorme. Pensez au mur, à la muraille de Chine. Un jour, tous les êtres humains se retrouvent devant cette muraille-là. On sait qu'on va devoir la franchir, mais on n'a aucune certitude sur ce qui se passe de l'autre côté. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre bord. Alors, à ce moment-là, on se développe une philosophie, une pensée. On essaie de régler cette question-là. Chacun de notre manière, de différentes manières. Certains vont se dire, d'après moi, de l'autre côté, la vie continue. Là, je pense à tous les principes de réincarnation. Puis on va revenir, puis la vie est sacrée. D'autres vont se dire, non, la vie, ce n'est que de la matière. Je ne suis que des molécules, ça s'arrête là. Et il n'y a rien de l'autre côté. Puis dans un sens, s'il n'y a rien de l'autre côté, pourquoi est-ce que j'aurais peur de la mort, puisque de l'autre côté, je ne ressentirai rien, je n'expérimenterai rien, je ne saurai rien. Donc, j'ai rien à craindre dans un sens. Et là, ceux qui croient ça, bien, dans un sens, se croisent les doigts puis se disent, j'espère que ça va aller bien, puis que c'est comme ça, dans le fond, qu'il n'y aura plus rien de l'autre côté. Je peux faire face à la mort avec une certaine paix. Puis il y a vraiment des gens qui quittent ce monde, quittent cette vie, franchissent cette frontière-là avec cette conviction et une certaine paix de se dire « ça s'arrête là de toute façon, je m'éteins complètement ». D'autres se disent « non, profondément, je sais à l'intérieur de moi que c'est une grande frustration la mort, qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. En philosophie, on va parler d'ontologie, il y a quelque chose qui ne cadre pas avec ce que nous sommes comme être ». Et là, on commence à se poser la question, oui, mais s'il y a un Dieu de l'autre côté, s'il y a une vie de l'autre côté, comment est-ce que je fais pour savoir ce qui va se passer? Comment je fais pour me préparer, me qualifier pour cette vie-là? Me présenter devant ce Dieu-là s'il y a un créateur? En voyez-vous, d'une certaine manière, quelle que soit ta philosophie, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, tous les êtres humains sont absolument égaux. On vient dans ce monde, on part dans une quête de sens, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on est là, et lorsqu'on arrive devant cette frontière-là qu'on va devoir franchir, on est devant l'inconnu. Imaginez qu'on est tous ensemble devant ce mur-là, et qu'un jour vient un homme, un vrai homme, qui va se buter lui aussi à cette frontière-là, puis qu'un jour vient un homme, puis il dit, attendez un petit peu, arrêtez-vous. Je vais franchir le mur, mais je reviens, attendez-moi. Puis il passe par la porte. Est-ce que vous l'auriez attendu? Il y en a un, tu sais, qui s'éteint, qui meurt. Il dit, attendez un petit peu, je reviens, ça ne sera pas tellement long. Est-ce que vous l'attendez? Moi, je ne l'attends pas. Les disciples ici ne l'attendent pas. Parce qu'honnêtement, il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour de vrai. Hein? Mais imaginez que quelques jours plus tard, cette personne-là revient, traverse, ouvre une porte, puis elle vous dit, j'ai trouvé la clé. Je suis allé de l'autre bord. Si vous passez par cette porte-ci, tout est merveilleux. Venez me rejoindre. Ça, c'est le début du christianisme. C'est le début du christianisme. Et c'est en ceci que la foi en Jésus-Christ se distingue de tout ce que vous allez trouver dans l'histoire de l'humanité. Doug nous a parlé la semaine dernière, Doug Virgin, qui apportait le message de la parole. Allez écouter sur la crucifixion, c'est super important. Doug nous a dit, Jésus est ce leader spirituel unique qui est mort crucifié à 33 ans. Les autres sont morts dans leur vieillesse, ont apporté une philosophie, et lui avait annoncé qu'il devait mourir jeune, crucifié, méprisé. Mais ce que je vous dis ce matin, et je crois que c'est ça que Luc est en train de nous dire, c'est que le christianisme est unique, non pas premièrement dans la mort de Jésus, mais de manière encore plus glorieuse et merveilleuse, dans sa résurrection, dans sa résurrection. C'est dur à croire, par exemple. La résurrection de Jésus-Christ est le moment fondateur du christianisme. La mort de Jésus, la croix, est l'image la plus forte du christianisme. C'est vrai? Doug l'a dit, hey, je suis content qu'il y ait une croix ici. C'est l'image la plus forte du christianisme. Mais la résurrection de Jésus est le miracle qui a tout rendu possible. C'est le miracle qui a créé le christianisme. Ce matin, si vous voulez retenir le message, l'exposer, puis retenir ce passage-là, d'accord? Si vous voulez comprendre la foi chrétienne, comprenez simplement ce chapitre-là. Vous allez saisir le christianisme. Retenez ces quatre mots-là, d'accord? Réalité, sens, mission, adoration. Vous allez voir, c'est le mouvement qui est à travers tout le chapitre. Réalité, sens, mission, adoration. On va voir ensemble ce matin qu'il n'y a rien d'aussi certain, essentiel et beau que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Premier mot, la réalité. Lorsque Luc a écrit l'Évangile, lorsqu'il a écrit son récit, lorsqu'il a écrit le livre des Actes, qui est le tome 2 du même livre, il l'a écrit premièrement pour des chrétiens. Des chrétiens qui n'avaient pas eu le privilège d'être témoins oculaires de la vie de Jésus, ou peut-être des moments, peut-être qu'ils l'ont croisé par moments, mais ne faisaient pas partie des disciples qui ont vécu 3 ans avec Jésus, qui l'ont vu faire des miracles. Ils n'ont pas été témoins oculaires de sa mort sur la croix, probablement, et certainement pas témoins oculaires de sa résurrection. Et donc, lorsque Luc écrit son évangile, lorsqu'il écrit le livre des Actes, une de ses intentions, un de ses objectifs est d'affermir la foi des chrétiens, la foi de ceux qui ont commencé à croire en Jésus-Christ. D'affermir cette foi-là, c'est son objectif. Et lorsqu'on dit que la résurrection d'un individu, le retour de la mort d'une personne est le miracle fondateur du christianisme, écoutez, honnêtement, c'est normal de douter. Avec les disciples, je suis convaincu que si j'avais été avec les disciples au moment où Jésus est mort sur la croix, si j'avais été de ceux qui sont allés le conduire dans le tombeau, je suis convaincu que je ne l'aurais pas attendu. Ça ne me serait même pas passé par la tête. Parce qu'il s'agit d'une chose impossible. C'est proprement impossible de ressusciter d'entre les morts. Et les disciples n'ont jamais eu vraiment à le croire, hein? Vous allez peut-être penser, ouais, mais ils ont vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de douter. Ils ont juste vu un miracle. Mais mets quelqu'un en terre. Je ne suis pas certain que vous allez le croire. Luc 24, 6 à 8, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. À travers la première moitié du chapitre jusqu'à... Ah, je vous dirais, Jésus apparaît à plusieurs reprises physiquement devant eux. Mais lorsqu'on arrive, il y a un beau verset au verset 41. Regardez bien le verset 41, ce qui est écrit. « Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. » Dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Ils sont comme, tu sais, un peu comme, quand il y a quelque chose qui se passe, tu dis, « C'est trop beau pour le croire, tu sais, puis j'arrive pas à saisir. Il y a comme une émotion, mais je suis pas sûr que je vais me laisser aller à cette émotion-là. Est-ce que vraiment? » Dans leur joie, ils doutaient encore. Et à travers tout le chapitre, il y a ce mouvement-là où, premièrement, Luc prend le temps de souligner les doutes. Les femmes vont là-bas, les femmes... Écoutez, c'est des femmes qui avaient toutes vécu les épreuves avec les disciples. Elles étaient dignes de confiance. Il n'y avait aucune raison de douter de leurs paroles. Ils vont tomber dans ce vieux cliché que leur parole n'est pas fiable, puis tout ça. Alors, à travers toute la première moitié du chapitre, Luc prend le temps d'installer pour le lecteur le doute. Il veut qu'on entre en contact avec ça. Je ne pense pas que Luc est en train de le faire pour montrer que les disciples étaient une gang de morons. Je pense qu'il est en train de le faire parce qu'il veut qu'on saisisse que la résurrection de Jésus-Christ doit être réelle si le christianisme est vrai. Il faut que ce soit une véritable résurrection. Autrement, le christianisme, c'est juste une philosophie. Et comme c'est une philosophie qui nous demande de vivre pour un mensonge, si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, je vous dirais que c'est la pire de toutes. Alors, ce que Luc fait, c'est qu'il vient installer ce sentiment-là pour qu'on vive avec les disciples le doute. Puis Luc est en train de nous dire, allez pas croire que ces gens-là, c'était des nonos, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le web, il n'y avait pas découvert la théorie de la relativité. Ils ne mesuraient pas l'univers comme on sonde l'univers. C'est des gens qui croyaient n'importe quoi. La résurrection d'un mort était aussi difficile à croire à l'époque qu'elle est difficile à croire aujourd'hui. De la même manière. Et Luc prend le temps de nous confronter avec ce sentiment-là. Ces gens-là se sont investis pendant 3 ans, ils ont consacré leur vie, ils avaient les plus grands espoirs. Ils ne demandaient pas mieux que de croire en Jésus, je peux vous l'assurer. Mais lorsqu'ils ont vu leur maître, leur Seigneur pendu au bois, perforé sur le côté par la lance d'un Romain, lorsqu'ils sont allés le conduire eux-mêmes à l'intérieur du tombeau, jamais, ils ont cru qu'ils pouvaient ressusciter d'entre les morts. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais en guise d'introduction que ce qui se passe dans ce chapitre-là, ça ressemble aussi au cheminement de tous les gens qui sont devenus chrétiens à travers les âges. Parce que la première fois que tu entends parler du christianisme, à moins que tu en entendes parler puis que tu as été élevé dans l'Église, bon, peut-être à 3-4 ans, ouais, ça fait plein de sens, puis j'écoute 6-7-8 ans, wow, ça fait plein de sens, il va venir des moments où ça ne fera peut-être pas tout à fait du sens. Tu sais, ressusciter d'entre les morts, marche sur les eaux, wouh! Toute personne qui entre en contact avec le christianisme, à un certain moment donné, se dit, c'est trop beau pour être vrai cette histoire-là. Un Dieu qui nous aime au point de venir mourir sur la croix, donner son Fils qui vient mourir sur la croix pour notre salut. J'ai rien à faire à proprement dit pour être sauvé parce que je suis sauvé par grâce, je place ma foi en lui. C'est un conte de fées, ton histoire. Mais à ce moment-ci, le conte de fées, c'était une histoire d'horreur parce qu'il ne croyait pas du tout dans la résurrection. Luc reconnaît et souligne la difficulté de croire à une telle chose que la résurrection. Et ensuite de ça, ce qu'il va s'appliquer à faire, c'est de démontrer qu'il y a eu des témoins oculaires et que cette résurrection-là, ce n'était pas une résurrection simplement spirituelle, comme s'ils avaient eu une apparition d'un fantôme, comme si la présence de Jésus était ici au milieu de nous. Il est parti, mais il est encore là, en esprit, au moins il est avec nous. Hein, dans un sens, oui, mais ça c'est un autre sujet. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Parce que certains vont dire ça. Il y a toute une théologie libérale qui s'est construite vers la fin du 19e siècle, juste avant le début du 20e siècle. Une théologie libérale qui s'est développée à travers tout le début du 20e siècle, puis qui prétendait ceci, qui disait, c'est difficile avec la pensée moderne, avec la pensée scientifique qui est en train de se développer, de croire dans les miracles. Alors, est-ce que c'est vraiment important de défendre l'idée qu'un miracle s'est vraiment produit? Est-ce que les miracles pourraient pas plutôt être des métaphores, des leçons spirituelles? Et donc, plusieurs théologiens, abandonnant la foi de Luc, de ses premiers lecteurs et des disciples, en sont venus à dire, ben, c'est peut-être pas une résurrection physique réelle. C'est peut-être une résurrection spirituelle. Il était peut-être là en esprit. Je peux croire en Dieu, je peux croire qu'après la mort, on va tous vivre comme des esprits. Mais une résurrection physique, la théologie libérale a voulu faire un bout de chemin pour aller rejoindre une pensée contemporaine en disant, on va enlever des écueils. Et à travers ça, ils ont perdu la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, Luc est très, très clair. Jésus a mis tous ses efforts en apparaissant à plusieurs personnes. Plus de 500 personnes ont vu Jésus lorsqu'on va dans les Actes, dans les quatre évangiles. Et lorsque Jésus apparaît, puis qu'ils sont en train de douter, tout à l'heure je parlais du verset 41, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » On va juste voir si ça tombe par terre quand ça passe par là. Parce qu'un esprit, c'est ça qui se passe, non? Il en prit et mangea devant eux. C'est vraiment intéressant, les scènes de repas. Jésus avait pris un repas avec eux avant de mourir. Comment est-ce qu'il apparaît aux disciples sur le chemin d'Emmaüs avec un repas puis partage avec eux? C'est moi. C'est moi. Je suis encore en train de prendre un repas avec vous. Je suis encore en train de nourrir votre foi, alimenter votre foi. Luc prend le temps de souligner, de démontrer que la résurrection de Jésus était réelle et physique, pas simplement une vision spirituelle. Et donc, à quelque part, dans ton cheminement de foi, si tu es attiré par le christianisme et que tu ne te rends pas à cet endroit-là, présente-toi pas comme un chrétien. Présente-toi comme un philosophe qui va puiser dans toutes les religions des philosophies intéressantes. Parce que les chrétiens, depuis toujours, affirme que Jésus-Christ est ressuscité physiquement d'entre les morts. Et c'est clair dans le passage que ça demande une intervention de Dieu pour croire. Au verset 15 et 16, c'est écrit, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » C'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Puis à un certain moment donné, Jésus va ouvrir leur esprit. ils vont le reconnaître. C'est clair aussi à travers les quatre évangiles que cette foi-là, cette croyance-là, cette conviction profonde que moi j'ai, que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts, c'est un pas de foi qui est suscité à quelque part par Dieu dans mon cœur. Je ne peux pas arriver là simplement par moi-même. Ça prend une intervention de Dieu qui va m'accorder cette foi-là. Alors moi, avant de devenir chrétien, pendant plusieurs années, j'ai prié. J'avais été instruit dans la foi chrétienne, mais je n'arrivais pas à me résoudre absolument que la vérité se trouvait en Jésus-Christ seul. C'est là mon dilemme. Puis dans mon cheminement, moi, j'avais des dialogues de temps en temps avec Dieu. Je parlais avec Dieu. En lutte surtout, je m'astinais avec lui, je n'étais pas content après lui. Mais au jour où j'ai cru vraiment, puis j'ai arrêté de lutter, c'était clair dans mon expérience personnelle que je n'étais pas seul à ce moment-là. Mais que Dieu était présent et qu'il était en train d'opérer un miracle dans mon cœur à moi pour que les luttes s'arrêtent et que la foi vienne vraiment s'installer en moi. Ma vie en a été complètement transformée. Je ne suis pas devenu parfait du jour au lendemain. Mais le lendemain, c'est clair que je n'étais plus la même personne. Dans mon cas, ça a été aussi drastique que ça. Il y en a chez qui c'est plus progressif. Dans mon cas, ça a été super drastique. Alors, c'est absolument clair qu'aux yeux de Luc et des premiers disciples, Jésus est réellement ressuscité. Et une fois qu'on a réglé cette question-là, on peut commencer à comprendre le christianisme. Donc, si dans ton esprit, tu dis « non, je pense qu'il n'est pas ressuscité », tu ne pourras pas saisir qu'est-ce que c'est le christianisme. Tu vas comprendre de ça que c'est une religion, une patente où on essaie d'être comme Jésus, d'atteindre la sainteté, de devenir comme lui, d'avoir des bons principes, d'avoir une philosophie de vie qui est l'amour, le partage, le don, puis Dieu est amour, puis tu n'auras pas saisi l'essentiel du christianisme. Mais une fois que les disciples saisissent vraiment que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il peut leur enseigner quel est le sens de la résurrection. Quel est le sens de cette résurrection? Premier mot, la réalité. Le deuxième, le sens. Romains 4, 24-25. L'apôtre Paul dit, « C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Quel est le sens de la résurrection de Jésus-Christ? La résurrection de Jésus change énormément de choses. Elle change la vie des gens, elle change le sens de l'univers. Mais s'il y a une chose que la résurrection de Jésus-Christ ne change pas, ce sont les plans de Dieu. Ce n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas une opération de sauvetage où Dieu aurait comme perdu le contrôle de la patente. Il crée les êtres humains, l'univers est extraordinaire. Finalement, excusez-moi le terme, mais c'est le fouillis total sur la terre parce que les êtres humains sont rebelles. Puis là, il y a besoin d'un plan de sauvetage. Qu'est-ce que Jésus fait lorsqu'il commence à les enseigner, que ce soit les disciples sur le chemin d'Emmaüs ou un petit peu plus loin vers la fin du passage? Il s'en va à travers les Écritures et il leur montre comme à travers toutes les Écritures, il était présent. Sa venue, sa mort, sa résurrection étaient annoncées. Les choses devaient se passer ainsi. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là par la mort de Jésus sur la croix, par sa résurrection, ce sont les desseins éternels de Dieu qui se sont accomplis. Ce sont les plans parfaits de Dieu qui se sont accomplis. Ce que ça veut dire, que si je ne comprends pas qui est Jésus-Christ, je ne peux pas comprendre la Bible. Donc, un Juif qui connaîtrait tout l'Ancien Testament par cœur et qui ne croirait pas que Jésus est le Messie ne peut pas comprendre l'Ancien Testament. Je l'ai dit. C'est bon? Un musulman qui me dit que Jésus est le plus grand des prophètes. Isha, le plus grand des prophètes. Extraordinaire, merveilleux. Impossible qu'il soit mort sur une croix, parce que Dieu ne ferait jamais ça à son fils. Ne peut pas connaître Dieu, ne peut pas comprendre la Bible, et sa révélation la troisième, le Coran, selon eux, qui vient compléter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Parce que Jésus déclare ici clairement que toutes les Écritures parlaient de lui. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si je veux grandir dans ma foi, je devrais apprendre à connaître en quoi l'Ancien Testament m'annonçait Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Quel est le rapport de Jésus avec la loi? Quel est le rapport de Jésus avec les prophéties? Quel est le rapport de Jésus avec Dieu? Est-ce que vraiment la Trinité existe? Est-ce qu'il est vraiment Dieu le Fils? Étudie Jésus dans l'Ancien Testament. Étudie Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus est la clé pour comprendre les Écritures. Et c'est pour ça que si tu es en train de cheminer dans ta foi, puis tu te dis, « Ah, moi, je vais commencer par la Genèse, puis on va y aller tranquillement. » Ça se peut que je te fasse commencer plutôt par un évangile, tu vois? Parce que si tu commences par la Genèse, ça se peut que tu comprennes Jésus juste comme un juif, donc que tu ne crois pas en lui tant que tu n'arrives pas au Nouveau Testament. Il y a un paquet d'affaires que tu n'arriveras pas à comprendre. Et on commence par la personne de Jésus parce qu'il est la clé pour comprendre toutes les Écritures. Et donc, dans votre croissance, dans votre cheminement de foi, pour devenir des chrétiens matures, consacrer du temps à lire des livres, à assister à des cours qu'on donne ici à l'Église sur le royaume de Dieu, sur la christologie, sur Dieu à travers sur Jésus à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Instruisez-vous dans ces choses-là, afin de comprendre les Écritures, afin de comprendre la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez les Écritures, soyez attentifs, posez-vous la question. Moi, je lis l'Ancien Testament comme un chrétien, je ne peux pas le lire seulement comme un juif. Je dois le lire comme un juif qui a cru en Jésus, mais pas simplement comme un juif qui n'a pas reconnu, admettons, Jésus-Christ. Mais je vais aller plus loin que ça. Si je ne peux pas comprendre la Bible tant que je n'ai pas cru en Jésus-Christ, moi, je crois que je ne peux pas comprendre la vie tant que je n'ai pas cru en Jésus-Christ. Si la Bible est la révélation de Dieu pour comprendre pourquoi on est sur la terre, à quoi ça sert la terre, c'est quoi la justice, qui est Dieu, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, avoir du discernement. Et j'ai besoin des Écritures pour comprendre ça vraiment. Mais si je ne connais pas Jésus-Christ, je ne peux pas comprendre qu'est-ce que je fais sur la terre. Je ne peux pas comprendre vraiment à quoi sert ma vie. Je pourrais être tenté de croire que la vie est vraiment extraordinaire sur la terre et qu'il n'y a rien de plus beau après. Je pourrais être tenté de croire que je dois tirer le meilleur parti de cette vie et je dois faire ma place dans cette vie-là parce que c'est ça qui est le plus important. Je pourrais être tenté de croire que la terre, c'est une histoire triste parce que c'est une vie qui se termine. Oui, ça, c'est l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament sans Jésus-Christ. La terre, c'est une histoire extraordinaire où il y a un fond de tristesse, mais qui est rempli d'espoir, un espoir qui culmine à la résurrection de Jésus-Christ, qui nous pointe vers un avenir extraordinaire. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, je crois que tu ne peux pas savoir pourquoi tu es sur la terre. Et donc, c'est pour ça, entre autres, que dans cette Église, on revient constamment sur cette idée que je veux retourner à l'Évangile, je veux retourner à Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Parce que j'ai besoin de cette clé-là, la personne de Jésus-Christ, pour comprendre les Écritures, mais pour comprendre mes journées, pour comprendre les épreuves de la vie, pour comprendre le sens de la vie. Christ dans toutes les Écritures. Christ pour la repentance et le pardon des péchés. Verset 46, il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Luc va développer ça dans son tome 2, dans le livre des Actes. Vous pourrez vous lancer dans cette lecture-là ensuite. À travers la mort de Jésus sur la croix, à travers sa résurrection, devient possible la repentance et le pardon des péchés. À travers la mort sur la croix de Jésus-Christ, à travers sa résurrection, l'être humain peut se détourner de lui-même pour se réconcilier avec Dieu, être pardonné de tous ses péchés. Et peut-être que vous vous dites, « Mais moi, je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas quelqu'un de profondément rebelle. » On a des histoires d'horreur là, dans les journaux ces semaines-ci, des arrestations, des abuseurs, des pédophiles, toute la panoplie passe de ce temps-ci. Vous dites, moi, je ne suis pas dans ce camp-là, je n'ai pas de problème. C'est quoi ta relation avec Dieu? Si je te dis que Dieu veut diriger ta vie, tu le trouves-tu encore cool? Si la réponse est non, c'est ça, t'es pécheur. T'es pas en communion avec Dieu, c'est pas ton père, il est pas là dans ta vie. Il est ton ennemi à quelque part. Il t'a donné la vie, il t'a donné l'oxygène à respirer à tous les jours, il te donne les journées, mais toi tu dis, je te dois rien. Je te dois absolument rien. Puis tu vas pas diriger ma vie. Le sens de la croix et de la résurrection de Jésus, c'est la possibilité pour tous les êtres humains sur la terre de se repentir de leurs péchés, de cet affront que nous faisons à Dieu de vouloir vivre sans lui, d'être pardonné de nos péchés puis entrer dans une vie nouvelle, une vie de liberté. Le sens de la résurrection de Jésus-Christ, c'est cet espoir devant la mort. Imaginez un instant, je reviens à mon illustration du début, imaginez un instant les disciples qui rencontrent Jésus. Vous savez, les disciples savaient qu'il allait mourir, pareil comme tout le monde. Mais imaginez un instant, ils se retrouvent devant Jésus, puis là, ils ont de la difficulté à le croire, ils veulent y toucher, ils veulent le voir manger, puis tranquillement, ça s'installe dans leur cœur, la certitude s'installe là. Qu'est-ce que ça produit par rapport à ta mort, ça? Si cette personne-là est revenue, de l'autre côté du mur, elle est revenue, elle a refranchi la frontière, puis elle vient, puis elle dit, « Je suis la clé. Passe par cette porte-ci, puis tu vois ce que je suis. L'éternité, c'est ça que tu vas vivre. » L'être humain, depuis toujours, est fasciné par cette idée d'être éternel. Cette semaine, il y a un autre Marvel qui est sorti, Deadpool. C'est un Wolverine, mais pas très gentil. Puis c'est quoi son super pouvoir? Il s'auto-régénère. Mythologie grecque, on a ça constamment. L'être humain voudrait vivre toujours. Mais en même temps, ces êtres-là vivent comme une malédiction. Leur malédiction, c'est qu'eux autres vont être éternels, mais tout le monde autour d'eux vont mourir. Jésus-Christ nous dit, « J'ai vaincu la mort, entre avec moi dans l'éternité. » C'est ça le sens de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque les disciples saisissent ça dans le passage, avec ça vient une mission. Avec ça vient une mission qui leur est confiée. Une mission extraordinaire. Regardez avec moi ce qu'il dit au verset 47, 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et il leur dit, « Vous êtes témoins de ces choses. » Moi, je suis pasteur. J'ai un privilège. Moi, je rentre dans les hôpitaux n'importe quand. Je ne pose pas de questions. Je me rends à la chambre. Les heures de visite, pas d'heures de visite. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « Non, vous ne pouvez pas. » J'ai juste à dire, il y a quelqu'un qui va libérer un lit bientôt dans votre hôpital, il faut que j'aille le voir. Vous ne pouvez pas imaginer le privilège. Peut-être que vous l'avez vécu personnellement. La grâce d'aller s'asseoir avec quelqu'un qui a placé sa foi en Jésus-Christ et qui sait que la porte est en train de s'ouvrir. Allez prier avec ces gens-là. Leur tenir la main, puis simplement les accompagner dans ces moments-là. C'est vraiment une grâce extraordinaire, je peux vous le dire. Tu sors de là, puis après ça, tu dis, « OK, il faut que j'en parle à d'autres mondes. » Parce que moi, toutes les gens que je crois, je voudrais pouvoir leur tenir la main lorsqu'ils vont traverser. Puis qu'ils aient exactement cette foi-là, exactement cette paix-là. Alors, ce que Jésus leur dit, il leur dit maintenant, vous êtes missionnaires, les amis. Et votre mission va s'étendre à toutes les générations d'êtres humains, à toutes les nations de la terre. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Et donc, Luc est en train de dire à son lecteur qui est en train de lire le passage, ce mandat-là, ce n'est pas arrêté aux apôtres, ce n'est pas vrai. En fait, les apôtres n'ont comme rien compris. Au début, ils veulent tout garder à Jérusalem, puis juste pour les Juifs, puis il faut que Dieu leur torde le bras pour qu'ils commencent à aller annoncer l'Évangile aux non-Juifs. Puis, comprenez? Ils ne l'avaient pas saisi. Cette mission-là n'est pas accomplie encore. N'est pas complétée encore. Et lorsqu'on lit le passage, ben là, on peut se dire, oui, mais moi, je n'ai pas été témoin. Vous êtes témoin de ces choses. Comment Jésus peut me dire ça à moi? Regardez bien comment le passage se poursuit au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père m'a mis. Mais vous... Est-ce qu'il revient? Oui. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est intéressant, lorsqu'on va dans le livre des Actes, le « vous êtes mes témoins » est inversé. Il dit « vous allez être à Jérusalem, une puissance va survenir sur vous, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. » Il ne suffisait pas d'avoir vu Jésus de nos propres yeux pour devenir des témoins, parce que par eux-mêmes, les disciples n'auraient pas bouleversé tout l'Empire romain. Il fallait qu'il s'ajoute à ça la puissance de l'Esprit-Saint qui venait sur eux. Et donc, Jésus leur dit, vous l'avez vu, vous allez l'annoncer, mais restez silencieux pour l'instant. Parce que par vous-même, vous ne serez pas capable d'annoncer ça jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur dit, restez à Jérusalem, attendez, l'Esprit-Saint va venir sur vous et alors vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, Luc est en train de dire, et c'est ça qu'il fait à travers tout le livre des Actes, que tous ceux qui deviennent chrétiens, tous ceux qui arrivent à un endroit où dans leur cheminement, il y a une conviction profonde qui s'installe dans leur cœur que Jésus est le Sauveur, ressuscité d'entre les morts, la porte qui m'ouvre l'éternité, à ce moment-là, je deviens témoin. Et je suis responsable de témoigner. La vision de l'Église de l'espoir ici, c'est quoi? C'est 500 disciples qui font des disciples. On est à peu près à 300, 320 dans la salle ici ce matin. Notre rêve, c'est 500 disciples qui font des disciples. On a fait un sondage la semaine dernière. C'est super intéressant. On a hâte de vous en parler la semaine prochaine puis dans les semaines qui viennent. Mais on sent à travers le sondage ce défi-là qu'il y a de dire oui, mais OK, je suis témoin dans le sens que je l'ai reçu, j'ai cru, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que moi, j'ai le courage et la force? Jésus dit, est-ce que tu as l'esprit? Est-ce que tu as l'esprit? Pas est-ce que toi, tu as la force, est-ce que tu as l'esprit? Est-ce que tu as reçu cette puissance d'en haut qui va faire de toi un témoin? Ou tu vas simplement raconter ce que Jésus t'a fait? Simplement, simplement. Et le passage se termine. Le passage se termine sur l'adoration. C'est vraiment intéressant, l'évangile de Luc a commencé dans le temple. Lorsque Zacharie a reçu la promesse, il est en train de servir, et puis il reçoit la promesse que son fils, Jean-Baptiste, qui va être le messager. Son épouse était stérile, il est en train de servir dans le temple, il ne voyait pas comment ça se pouvait, et donc il doute. L'évangile de Luc commence dans le temple avec un sacrificateur qui est rempli de doutes. Qu'il va vraiment y avoir un prophète qui va venir, un sauveur qui va venir et que ça va passer par sa famille. L'évangile de Luc se termine dans le temple avec des disciples qui sont en train d'adorer. Il y a un mouvement dans ce chapitre-là où on passe du doute et de la tristesse à la joie, du doute à l'adoration. Allez avec moi à la fin du chapitre, puis on va terminer sur ça ce matin. Verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Tombe 2, allez lire si vous ne connaissez pas l'ascension de Jésus-Christ, allez lire le tombe 2, Actes des apôtres. « Pour eux, après l'avoir adoré, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » Les chrétiens adore Jésus-Christ. On n'adore pas un homme. Un simple homme, pour nous, c'est le pire des blasphèmes. Tu adores Dieu seul. C'est clair, pour nous, on adore Dieu seul. Mais les chrétiens sont allés au temple et dans leur cœur, ils louaient Jésus-Christ. Ils louangeaient Jésus-Christ. Ils adoraient Jésus-Christ. Le terme qu'il y a là pour adorer, c'est « se prosterner ». Parce qu'à ce moment-là, ils ont saisi que Jésus est Dieu le Fils qui a vaincu la mort et qui nous donne la vie. Lorsqu'on se réunit le dimanche, on se réunit pour célébrer la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. On se réunit pour célébrer le sens de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'on a compris qu'en Jésus, on trouvait le pardon de nos péchés. On trouvait l'espoir, la conviction ferme de l'éternité. On a compris à quoi servait notre vie ici sur la terre. Lorsqu'on se réunit pour célébrer le dimanche, on se réunit pour prendre à cœur cette mission que Dieu nous a confiée. On témoigne ensemble à travers nos louanges de la personne de Jésus-Christ. Et lorsque le service se termine, on se sépare, on s'en va partout pour être témoin, pour témoigner qui est Jésus-Christ pour moi. C'est ça qu'on fait. Et on prie avec ferveur, semaine après semaine, pour que Dieu sauve des milliers de personnes dans le Grand Longueuil, dans la Montérégie, là où Dieu nous a placés. Mais lorsqu'on se réunit le dimanche pour célébrer, on se réunit pour adorer. On va chanter des chants dans quelques instants. Puis peut-être que vous êtes comme, vous avez toutes sortes de blocages à l'intérieur, puis vous dites, moi, la louange, ça ne m'a jamais branché, Yannick. Je ne sais pas, ça ne me rejoint pas, cette patente-là. Puis c'est pas mon style de musique. Puis quand moi, je suis devenu chrétien, c'est « J'ai trouvé la paix profonde ». Fait que moi, le drum sur le stage, c'est pas vraiment mon genre. Puis je comprends parce que, tu sais, j'ai un service qui s'appelle Apple Music, puis je choisis toutes les tunes que je veux. Fait que vous pouvez aimer n'importe quelle musique, moi, j'écoute juste celle que j'aime. Quand je ne l'aime plus, ça me prend 15 secondes, je change de tune, puis je passe à autre chose. Puis on en vient à avoir une espèce d'expérience de la louange, de l'adoration, de la célébration, où on voudrait une espèce de menu à la carte, où je vais trouver comme la patente qui va me servir. Peut-être qu'un jour, on pourrait tous avoir des headphones séparés, puis on chanterait tous les mêmes chants, mais sur un air différent. Je sais pas si ça se ferait, mais tu sais, comme juste groover de manière différente, puis on serait tous ensemble en train de louer. Oh! Il y en a qui seraient super straight, il y en a qui seraient en train de sauter. Puis là, ce serait cool, là, c'est ma louange. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on se rassemble. Peut-être que ça vous branche pas, ça. C'est pas vraiment important. Si Jésus vous branche, vous êtes à bonne place. Parce qu'on est ensemble, dans nos cœurs, de toutes sortes de manières, de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes d'expressions, pour célébrer Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui est ressuscité d'entre les morts, et pour l'adorer ensemble. On va prier. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin, on veut juste préparer nos cœurs tranquillement, Seigneur, à peser ces vérités extraordinaires, Seigneur, qui ont bouleversé nos vies, tous ceux ici qui sont chrétiens, nos vies ont été changées, on a trouvé la conviction du pardon des péchés, Seigneur, on a trouvé la force de se repentir, la joie, Seigneur, de soumettre nos vies à celui qui a vaincu la mort. On a trouvé en toi le plaisir de t'appeler Seigneur, de t'appeler Maître. On a trouvé en toi la paix pour le jour où nous ferons le grand saut de l'autre côté, Seigneur. On a trouvé une passion, une vision, une mission pour annoncer Jésus-Christ à tous les hommes de la terre, Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'adorer. On veut élever ton nom. On veut te célébrer ensemble, Seigneur. Amen.